RFI
法国国际广播电台。
Anne, pourriez-vous nous présenter cette pièce de Niki de Saint-Phare intitulée The White Goddess?
Alors, cette pièce de Niki de Saint-Phare, The White Goddess, qui porte bien son nom, ça veut dire la déesse de quoi? Je pense qu'on peut imaginer que c'est la déesse de la vie dans tous ses éléments. Et c'est ce qu'elle possède, elle, son corps est fait en fait de tout ce qui fait notre vie. C'est-à-dire on y repère tous ces objets qui sont des objets bien sûr trouvés, que l'artiste a plaqués hein, sur la sculpture de féminine qu'elle a construite. Elle a ensuite trouvé ses petits jouets d'enfant, ses petits éléments décoratifs qu'elle a collés hein, sur la figure et qui font un tout extrêmement vivace, hein, qui nous rappelle certains tableaux de la Renaissance. On peut citer peut-être Archimboldo, par exemple. Et là, c'est vraiment, ça résume toute la vie. C'est pour ça que c'est une déesse. C'est-à-dire, vous avez la végétation, hein, vous avez toutes ces fleurs, vous avez les animaux, vous avez la naissance, l'enfance, avec tous ces bébés qui sont en fait des petites poupées, hein, des baigneurs, comme on les appelle. Vous avez les animaux, vous avez les petits masques. Hein, il y a un masque de tête de mort, c'est la mort. Vous avez la vie, vous avez aussi un masque de clown, c'est le rire. Vous avez en fait tout ce qui constitue la vie. Et puis bien sûr, tous ces éléments forment son corps aussi, c'est-à-dire qu'ils forment ses cheveux. Vous avez une ruade de cheval qui forme sa couronne. Hein. Donc tous les éléments sont en même temps des éléments figuratifs qui nous rappellent tout ce qui peuple notre vie, et puis qui forment aussi son corps, son habit. Donc c'est une déesse. C'est une déesse dans la mesure où les êtres divins englobent tout.
Quand on parle de la Renaissance, vu la pièce, il y a un effet séché.
Oui, vous avez raison, bien sûr, parce que nous sommes dans les années 60, nous ne sommes pas à la période de la Renaissance, et nous ne sommes pas dans une période de Renaissance, nous sommes dans une période de transition où les choses sont arides, sont dures, et les artistes commencent à travailler là-dessus.
Et c'est une pièce commandée ?
Ce n'est pas une pièce vraiment commandée, c'est-à-dire que la forme de la pièce n'est absolument pas commandée. C'est Niki de Saint-Phare qui a choisi de la faire comme ça, et dans le cadre d'une collaboration avec Renaud. Mais il n'y avait aucune indication à suivre.
Maintenant, on est devant l'œuvre de Jean Miro, intitulée « Femme, l'oiseau ». C'est un travail qui a été fait en 1979.
C'est une gouache avec un lavis, noir et blanc, enfin noir et blanc et gris, disons sans couleur, ce qui n'est pas évidemment très répandu chez Miro, mais qu'il a quand même beaucoup exploité et qui nous fait penser à son monde de signes. Le monde de Miro est toujours un monde de signes. Mais là, on est plus proche de l'écriture, c'est-à-dire qu'on est plus proche d'une écriture un petit peu orientale que de signes tels qu'on les a conçus, tels qu'on les a aperçus dans les formes flottantes des grands tableaux colorés.
C'est comme un idéogramme lointain.
Exactement, ça se rapproche beaucoup plus de l'idéogramme. On voit quand même la femme stylisée, on voit le déploiement de l'oiseau. C'est quelque chose de très fugitif, de très fugace. Hein. C'est-à-dire que ça correspond bien au reste des œuvres sur papier de la collection Renaud, c'est-à-dire des choses qui parlent de la trace, qui parlent de la fugacité des signes et qui traversent un petit peu les tableaux. Là, on est complètement là-dedans. C'est la seule œuvre de Miro que possède la collection Renaud parce que la collaboration avec Miro n'a pas été possible étant donné que l'artiste est mort très peu de temps après que les contacts aient été pris.
Le titre, c'est « Femme et oiseau ». Donc, il met femme et oiseau ensemble.
Oui, ça, c'est un sujet très classique chez Miro. On le retrouve beaucoup, hein, la femme et l'oiseau. Alors on peut s'interroger sur ce que ça veut dire pour l'artiste vraiment, mais c'est vraiment un thème qu'on a à toute époque de Miro, selon toutes les techniques, que ce soit une très belle œuvre sur papier comme celle-ci ou bien les grands tableaux. Hein, femme, oiseau vont ensemble pour lui.
Shi, 永远不是, 在我们面前呢,这一幅呢, 是中国艺术家何安的作品. C'est une œuvre de Rohan, oui, jamais non.
Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est un message très ambigu. Rehan est un artiste qui travaille beaucoup avec l'écriture. Il est d'ailleurs également poète, écrivain. Et il travaille aussi avec le système de messages de masse, c'est-à-dire les néons, par exemple, qui délivrent des messages dans les rues, un petit peu partout. Et son art consiste à mettre l'accent sur le fait que ces messages sont un petit peu conditionnés, qu'il ne faut pas évidemment les prendre pour argent comptant et se laisser conditionner par eux. Donc il les détourne. Il les détourne de différentes façons. Ce sont en fait des sculpture, écriture. Alors il récupère des anciens signes et il les reconstruit à sa façon, et il écrit quelque chose qu'il veut exprimer. En l'occurrence, oui, c'est presque toujours non, hein. Ça veut dire que le message que délivrent les grandes compagnies qui ont justement néon sur rue ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Là, en l'occurrence, dans cette très jolie pièce, il a retourné le sens normal de l'écriture contre le mur. Tant et si bien que la partie éclairée se retrouve contre le mur, comme s'il fallait traverser le mur et être de l'autre côté de la vitre pour pouvoir lire le message. Donc c'est une subversion, un détournement du message, un détournement du matériau du message et un avertissement évidemment à ceux qui sont victimes de ce matraquage des messages.
Visuellement, on a différentes couleurs, c'est-à-dire shi, oui, c'est un rouge, le premier mot de jamais yon, c'est un blanc et après ça passe par vert, bleu, rouge et bleu. Et il y a plusieurs couleurs avec des fils rouges. La matière, c'était quoi?
Alors la matière, ce sont des morceaux de récupérés, de signaux de rue, bien sûr, récupérés, qu'il récupère et qu'il reconstruit. Le fil électrique rouge, ça fait partie de sa marque de fabrique. Toutes ses écritures, sculptures au mur sont allumées par le biais de fils électriques semblables qui sont tirés tout droit vers le sol. Quant aux différentes couleurs, c'est sa préoccupation esthétique également. Il veut rythmer sa phrase, comme nous on la rythme par la pensée et puis on la rythme aussi par la syntaxe.
Pour ce genre de travail, ça fait penser Mathieu Mercier à Beaubourg, mais peut-être sans néon, c'est en français. Et là, c'est en chinois, non seulement il travaille avec les mots quasiment comme un slogan cloué sur le mur, mais en même temps avec néon, avec le message chinois. Et vous, comment vous avez choisi cette pièce ?
Je ne connaissais pas l'artiste, je suis rentrée dans une exposition qui avait lieu à Paris et j'ai tout de suite été séduite par tout ce que j'y ai vu et j'ai compris assez instantanément ce qu'il faisait. J'ai compris qu'il subvertissait les messages de néon qu'on trouve partout dans les rues, qu'il en faisait une sculpture, qu'il en faisait quelque chose de plastique, quelque chose de militant. Quelque chose de différent. Donc je me suis approchée, j'ai demandé qu'on m'explique, j'ai compris que les messages écrits étaient aussi une très ambiguë, comme contrepoint des messages extrêmement univoques de la publicité et des slogans. Voilà, donc tout cela m'a intéressée, cet aspect conceptuel. Vous évoquiez Mathieu Mercier, c'est tout à fait juste, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, qui est entre le conceptuel, le poétique, le militant, le sculptural. Tout ça était là pour moi et avec une évidence extrême. Donc j'ai vraiment voulu rencontrer l'artiste, je lui ai passé commande.
Mais quand même, il y a une continuité de Jean Dubuffet.
Oui, il y a une continuité parce que ça n'est pas un graffiti, mais c'est une écriture sur le mur. C'est une écriture qui est destinée à être vue, à être lue, mais qui est subvertie. Hein, elle est subvertie comme Dubuffet a subverti l'écriture puisqu'il en a fait une espèce de gribouillis. Et puis c'est aussi au rythme de la pensée, de la même façon que Dubuffet, son univers de graffiti est construit au rythme des soubresauts, des haltes, des hésitations de la pensée humaine.
Maintenant devant nous, c'est une pièce, on dirait sculpture, installation de l'artiste chinoise Wan Fang.
Wan Fang est une artiste chinoise, pékinoise, qui est très philosophique, très, très préoccupée des problèmes de société, des problèmes de beaucoup écologiques, problèmes de réchauffement climatique, de problèmes de pauvreté. Elle est très préoccupée de certaines régions de son pays, la Chine, qui sont très, très pauvres et qui sont très sèches. Et cette très belle sculpture est une interprétation sculpturale très évocatrice d'un paysage totalement desséché, désertifié par manque d'eau. Et ces stries sont soulignées par de la peinture rouge qui évidemment exprime automatiquement dans l'inconscient collectif la souffrance.
C'est une sorte de cube et chaque façade c'est 1 mètre carré à peu près. Et surtout sur la surface qui se donne au ciel, on voit qu'il y a des craquelures, des fractures. Et dedans, c'est une sorte de... En profondeur, il y a des peintures rouges.
Oui, quand on se penche au-dessus de la sculpture, qui n'a que 1 mètre de haut, donc on peut très facilement s'y pencher, on découvre véritablement le paysage horizontal et on a une compréhension immédiate qu'il s'agit d'un paysage désertifié, desséché, craquelé, où il n'y a plus aucune végétation, plus aucune vie, et où les quelques crevasses qui étaient à l'origine, bien sûr, faites par de l'eau qui passait, il n'y a plus d'eau qui passe. Elle l'a remplacée par de la peinture rouge qui évoque tout de suite le sang, donc la souffrance.
Dans une ville comme Pékin, en ce moment, la visibilité est très faible à cause de pollution. Peut-être c'est une pièce qui donne indirectement un message.
Oui, je pense qu'elle donne indirectement un message écologique. Elle est en même temps très expressive et je crois que toute personne qui voit cette œuvre ne pense pas peut-être consciemment aux problèmes écologiques, mais ça fait son chemin. Je voudrais juste signaler que l'artiste, juste avant le vernissage de l'exposition, était à la COP21. Elle avait été invitée officiellement à assister à cette grande réunion sur le réchauffement climatique. Donc elle est vraiment connue comme étant quelqu'un de très militant sur ce sujet-là.
RFI, Radio France International.